nous accueillons Agnès Buzyn. Bonjour, vous êtes ministre de la Santé depuis bientôt un an. On va évoquer les difficultés que rencontre aujourd'hui le monde de la santé, notamment le monde hospitalier, les EHPAD. Mais avant d'entendre cette grogne, je vais vous faire entendre quelque chose d'idyllique, Agnès Buzyn. Alors malheureusement, ça date de 1962, ce sont les actualités françaises. C'est une archive de l'INA et elle annonçait les beaux jours à venir des hôpitaux publics.
Autrefois, les hôpitaux n'étaient que des centres d'hébergement relevant du domaine de la charité et destinés à recueillir les indigents. Certains bâtiments devenus vétustes et quelquefois sordides créent pour les malades un abattement psychique qui peut être une véritable hantise pour les hospitalisés. Avec la Semaine nationale des hôpitaux, la Fédération hospitalière de France nous permet d'apprécier les efforts accomplis. Le malade ne doit plus être seulement un cas pour les statistiques, un client pour les hôpitaux, mais un hôte. En rompant avec la politique d'austérité et la carence du financement qui ont freiné l'évolution hospitalière, l'hôpital sera, est déjà, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un grand service public au service de votre santé.
Agnès Buzyn, une archive vieille d'un peu plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, on n'aurait probablement pas la même archive. Il s'agirait de quelque chose de plus pessimiste. On ferait la série des grognes à l'hôpital, dans les EHPAD. Pourquoi, selon vous ?
Alors, d'abord, bonjour. Et je pense qu'il ne faut pas dresser un tableau totalement noir de l'hôpital public. D'abord, les réformes qui ont eu lieu dans ces années-là, c'est-à-dire 50-60 de l'hôpital, et qui en ont fait un grand service public, ont permis à la médecine française de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une médecine de très grande qualité, avec des soins de très grande qualité, et une capacité aujourd'hui à faire des Français, un des peuples qui vit le plus longtemps. Alors, pas toujours en bonne santé, mais c'est plus en raison de nos comportements. Et quand on tombe malade aujourd'hui en France, on est très bien soigné. Donc, nous sommes un pays de progrès médical, nous sommes un pays reconnu dans le monde entier pour la qualité de sa médecine, notamment hospitalière. Après, un système doit évoluer.
Et justement, pourquoi faut-il le réformer si la situation n'est pas aussi noire qu'on le dit, Agnès Buzyn ?
Non, elle n'est pas noire en termes de qualité des soins. Simplement, aujourd'hui, les pathologies ont changé. C'est-à-dire que l'hôpital public des années 60 a été construit pour des maladies aiguës, pour des accidents du travail, pour des gens plutôt jeunes, puisque les Français vieillissaient moins longtemps. Et nous sommes maintenant face à une transition qu'on appelle épidémiologique, c'est-à-dire que nous vivons beaucoup plus longtemps avec des pathologies essentiellement chroniques qui vont beaucoup être prises en charge en ville plus qu'à l'hôpital. Donc nous devons réinscrire l'hôpital au sein d'un parcours de santé où la ville et l'hôpital travaillent de façon conjointe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et permettent aux patients d'avoir une prise en charge de qualité, que ce soit en ville, à l'hôpital, mais surtout coordonnée.
Mais alors ça va se traduire concrètement comment, selon vous, si cette réforme va jusqu'à son terme, Agnès Buzyn, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Alors, aujourd'hui, nous avons vu ce malaise hospitalier, bien entendu, les difficultés que ressentent les professionnels qui travaillent à l'hôpital, avec beaucoup de pression, moins de temps humain à dédier aux patients. Mais en réfléchissant à la réforme que nous devions faire, nous nous sommes rendus compte, et c'est évident pour tous ceux qui travaillent dans le système, qu'on ne peut pas penser l'hôpital sans penser, ou transformation de l'hôpital sans penser transformation du système de santé dans son ensemble. Parce que si on veut faire en sorte que la ville et l'hôpital travaillent ensemble, que les parcours du patient soient organisés, il faut tout autant travailler sur la médecine de ville.
Ça veut dire en faire plus à la médecine de ville ?
En faire plus, probablement, c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Beaucoup de choses peuvent être faites aujourd'hui en ville, sans hospitalisation.
Donnez-nous ou avec des exemples.
Par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes opéré par exemple, de l'épaule, vous pouvez être opéré le matin, sortir le soir, ensuite être pris en charge pour la rééducation en ville. Les mêmes interventions il y a 5 ans, vous restiez hospitalisé 3 jours, et les mêmes interventions il y a 10 ans, vous restiez hospitalisé une semaine. On voit bien que les techniques ont changé, que les prises en charge sont de plus en plus rapidement en ambulatoire.
Et les techniques ont changé, mais l'inquiétude des malades, elle est restée la même. Et chacun a la sensation que dans les différents actes médicaux hospitaliers, on sort aujourd'hui trop vite, Agnès Buzyn.
Alors, on sort trop vite quand on n'est pas bien accompagné en ville. Et c'est bien de cela dont on parle. C'est-à-dire que tout cela n'a de sens que si L'accompagnement des personnes et leur prise en charge en ville est bien réfléchie, elle est organisée avant la sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à ce système, c'est qu'il est cloisonné. On sort de l'hôpital sans vraiment une organisation dédiée et les gens recherchent un kinésithérapeute en secteur libéral, ils cherchent un médecin généraliste et tout cela n'est pas organisé. Donc cette réforme que nous souhaitons, c'est une réforme d'ampleur, cohérente, qui vise à faire en sorte que tous les professionnels de santé se coordonnent autour d'un parcours.
D'accord, vous ne pouvez pas la présenter autrement, mais dans les cas concrets...
Je vous donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui a un diabète aujourd'hui bien équilibré. C'est une maladie qui va durer des années, toute la vie, qui va nécessiter la présence autour du patient de tout un tas de professionnels. Il faut qu'un diabétique voit un diététicien, il faut qu'il voit un cardiologue, un ophtalmo pour sa rétine, il faut qu'il ait un podologue pour vérifier que ses pieds ne sont pas malades. Aujourd'hui, ce parcours avec 5 ou 6 professionnels, en plus du médecin traitant ou du diabétologue, n'est pas organisé. Pourquoi ? Parce que chaque professionnel intervient à un moment donné sans une coordination. On sait qu'avec la coordination, le diabète va être mieux.
Mais alors, vous voulez l'organiser à l'hôpital ou en ville ?
En ville.
Et pourquoi mais on justement imaginer... ne pas le faire à l'hôpital, puisque l'hôpital, a priori, pourrait être une structure dédiée qui permettrait de mieux organiser les parcours de soins, Agnès Buzyn ?
L'hôpital, aujourd'hui, pour fonctionner, nécessite des équipes 24 heures sur 24. C'est très lourd et c'est très cher. Alors que la même prise en charge en ville coûte beaucoup moins cher à la sécurité sociale et elle est plus confortable pour le malade. C'est angoissant d'aller à l'hôpital. En plus, à l'hôpital, on peut attraper ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Et donc, tout ce qui vise à réduire les temps d'hospitalisation, c'est bien pour le malade et c'est bien pour notre assurance maladie.
Avez-vous l'impression que les réformes qui ont été faites par le précédent gouvernement, notamment le tiers payant intégré, ont été des effets d'aubaine. Les médecins n'étaient pas contents, et les patients, ceux qui avaient les moyens de payer, auraient pu continuer à payer. Et il fallait évidemment augmenter la couverture de ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. Mais lorsqu'on parle du coût de la médecine, est-ce qu'il était nécessaire de maintenir par exemple cette réforme ?
Alors vous avez raison, ça a été une réforme assez brutale, assez idéologique et pour laquelle techniquement rien n'était prêt. Donc nous avons été obligés de revenir sur ce tiers payant généralisé alors que il faut bien reconnaître qu'il y a aujourd'hui en France des personnes qui renoncent aux soins parce qu'ils ne peuvent pas faire l'avance de frais. Donc on va faire du en même temps. Et le en même temps, ça veut dire permettre à ceux qui aujourd'hui n'accèdent pas à la médecine parce qu'ils ne peuvent pas avancer 9 ou 10 euros, d'y accéder, c'est-à-dire que nous devons faire en sorte que certaines populations ou certaines activités bénéficient du tiers payant.
Là-dessus, c'est clair.
C'est
mais
clair.
Pour ceux
mais
qui,
tout le monde,
par exemple,
en tous les cas,
vous et moi, on a les moyens de payer le médecin.
Ça ne peut pas être obligatoire pour vous ou pour moi. Je pense que...
Donc vous allez revenir sur la réforme ?
Non, la réforme, nous sommes déjà revenus dans la loi de financement de la sécurité sociale, donc la réforme s'est arrêtée. De toute façon, techniquement, rien n'était opérationnel. Donc, de toute façon, nous ne pouvions pas la faire. Nous avons donné un nouveau calendrier de mise en œuvre du tiers payant généralisé qui va permettre aux médecins d'être remboursés à la fois sur la mutuelle et sur la parassurance maladie. Ça sera opérationnel fin 2019, donc nous allons mettre en œuvre cette réforme, mais sur un mode volontariste, mais volontaire. Par contre, nous devons
volontaire,
identifier...
Volontaire, ça veut dire que les médecins qui ne voudront pas utiliser donc ce tiers payant intégral n'auront pas à le faire.
N'auront pas à le faire tout en leur proposant de monter rapidement en charge, puisqu'on s'aperçoit que c'est quand même une demande de la majorité de la population, donc il faut répondre à une demande sociétale. Mais par contre, je veux être sûre que les populations qui en ont vraiment besoin puissent accéder au tiers payant généralisé.
Même chose en termes d'effet d'aubaine, l'idée selon laquelle les prothèses auditives, les lunettes, ce genre de choses pourraient être aujourd'hui intégralement prises en charge. Par exemple, les lunettes, est-ce qu'il était nécessaire de faire bénéficier la totalité de la population de cette gratuité ?
Alors, ça va être beaucoup plus libre que cela. Ce que nous voulons garantir, c'est que les personnes qui en ont besoin puissent avoir accès à des lunettes ou à des prothèses auditives sans reste à charge, c'est-à-dire sans avoir à payer de leur poche. C'est cette prise en charge intégrale qui reposera à la fois sur une part assurance maladie et une part financée par les mutuelles. Cette prise en charge cette prise en charge globale, elle ne sera que sur un mode volontaire. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous acheter des lunettes roses avec des diamants sur les côtés, avec des verres fumés qui deviennent noirs, Là, ce sera du superflu et vous pourrez choisir ce type de lunettes et vous aurez un reste à charge.
Mais la sécurité sociale prend déjà en charge des montures sécurité sociale.
Oui, alors celle-là, elle était très bas de gamme et notre idée, c'est vraiment d'élargir
un panier. Vous allez monter en gamme, donc.
On va monter en gamme et surtout proposer des verres. Par exemple, quand vous êtes très myope aujourd'hui, vous avez accès à des verres très épais. Ça n'est pas juste. On a le droit d'être, d'avoir accès.
On a le droit d'être myope, d'ailleurs.
Et d'avoir accès à des verres très affinés parce que on est jeune et qu'il y a un côté esthétique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de définir un panier de soins de qualité, et c'est là la grande différence, de qualité, qu'on estime absolument nécessaire pour les gens et auquel ils pourront accéder sans avoir à débourser de l'argent de leur poche. Mais il y aura évidemment toute une offre beaucoup plus libre et auquel ceux qui ont les moyens pourront accéder s'ils le souhaitent.
C'était vraiment bien de proposer ça ainsi. Est-ce que ça n'était pas une promesse de campagne? On comprend les promesses de campagne, mais aujourd'hui, quelque chose de compliqué à mettre en place, Agnès Buzyn.
Alors, c'est évidemment compliqué à mettre en place, mais tellement nécessaire. Aujourd'hui, le fait que 50% des Français n'achètent pas de prothèses auditives, ça participe à la dégradation de l'état de santé de nos personnes âgées. Ça diminue le lien social, ça accélère la dépendance. Et donc, c'est une nécessité aujourd'hui que d'entendre pour garder un contact avec la société. Donc, c'est très important pour les prothèses auditives. Pour les lunettes, pardon. On sait qu'un certain nombre de jeunes aujourd'hui, certaines familles extrêmement défavorisées, peinent à changer les lunettes de leurs enfants, alors qu'ils en ont besoin pour apprendre à l'école, ça n'est pas possible. Et donc, il était impératif de faire cette réforme.
Autre réforme qui, là aussi, est une réforme un peu complexe pour les néophytes, Agnès Buzyn. Donc, la question des tarifications à l'hôpital. Donc, on voit bien que les budgets liés au secteur hospitalier dépendent de ce que l'on y soigne. Il y avait une tarification à l'acte, elle était claire. Il est question, semble-t-il, d'en finir. Pourquoi, expliquez-nous, pourquoi fallait-il en finir, réformer encore après la réforme, Agnès Buzyn?
Alors, juste pour que vos auditeurs comprennent, avant cette réforme de la tarification à l'activité qui a eu lieu dans les années 2000, les hôpitaux avaient une dotation globale et ça ne favorisait pas l'activité et le fait que les gens travaillent. Donc il y a eu une réforme qui a visé à mettre tout le monde au travail en tarifant et en finançant les hôpitaux sur leur activité. Le problème aujourd'hui, c'est que nous apercevons de la dérive qui fait qu'un la plupart des établissements cherchent à faire de plus en plus d'activités pour être rentables. Or, la médecine n'est pas qu'une question de rentabilité. La médecine, pour certaines activités, a besoin de temps. Les professionnels ont besoin de temps et ce temps n'est pas valorisé. Ce temps qu'on passe auprès des malades n'est pas valorisé. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre une activité qu'il faut rémunérer et d'autres services que rend l'hôpital qui doivent aussi être reconnus et valorisés. Et c'est cet équilibre-là que nous allons trouver dans la réforme tarifaire que nous allons mettre en place.
Alors justement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que donc on est passé d'une époque où on ne valorisait pas les actes à l'hôpital, où en fait on faisait ce que l'on voulait dans le temps que l'on estimait nécessaire. Ensuite, il y a eu une époque où tout était très serré avec des actes valorisés et évidemment des effets pervers. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire?
Je voudrais valoriser ce que j'appelle la bonne médecine, c'est-à-dire la qualité des prises en charge et la pertinence des actes. Pourquoi ? Parce que cette tarification à l'activité aujourd'hui, elle peut favoriser que vous gardiez un malade hospitalisé dans des lits de façon inutile parce que c'est rentable de le garder et que si vous avez des lits vides, vous ne payez pas en fait votre personnel. Et donc ça, c'est la dérive du système actuellement. Et c'est pas bien de garder quelqu'un à l'hôpital quand il n'en a pas besoin. Ça l'expose notamment à des maladies infectieuses.
Ça fait la deuxième fois que vous dites ça, ça fait peur quand même.
Non, mais tout le monde le sait, je donne ça comme exemple du bien fondé.
Pardon. Du bien fondé de cette réforme.
De ne pas garder quelqu'un inutilement à l'hôpital. Et donc il faut que nous valorisions ceux qui travaillent bien, qui prennent du temps à l'organisation, par exemple, des parcours. Aujourd'hui, quand vous passez une heure et demie à téléphoner à vos collègues en ville pour essayer d'organiser le parcours de soins de votre patient pour qu'il ne cherche pas un kinésithérapeute ou un médecin traitant, ça n'est pas valorisé. Et aujourd'hui, je veux que quelqu'un qui passe du temps à une bonne organisation, à une bonne coordination, par exemple, puisse être rémunéré. Et ça, c'est la réforme à la qualité que je souhaite mettre en place.
Alors pourquoi suscite-t-elle tant de grogne à l'hôpital ? Pourquoi y a-t-il
la réforme,
aujourd'hui...
je vous arrête, la réforme ne suscite pas du tout de grogne.
À l'intérieur de cette réforme, il y a un certain nombre d'aménagements. Alors il y a par exemple en ce moment les orthophonistes qui sont mécontents parce qu'ils considèrent qu'on les met à la porte du secteur hospitalier. Ils gagnent environ 2200 euros à l'hôpital. Ils peuvent gagner le double en ville. Or, un hôpital sans orthophoniste, disent-ils, eh bien, évidemment, c'est un hôpital qui fonctionnera moins bien, Agnès Buzyn.
Je le répète, aujourd'hui, les gens qui grognent à l'hôpital et qui expriment ce malaise, ils expriment un malaise qui s'est constitué au cours des 10 ou 15 dernières années.
On sait bien que vous n'êtes ministre que depuis un an.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas annoncé la réforme. Donc, les gens ne grognent pas contre la réforme puisque nous travaillons, nous consultons aujourd'hui toutes les parties prenantes pour proposer une réforme d'ici la fin de l'année.
Vous pensez qu'il crie avant d'avoir mal ?
Non, il crie pour exprimer un malaise. Et ce malaise, il est entendu puisque nous allons transformer. Et donc, je veux vraiment rappeler qu'aujourd'hui, ça n'est pas une grogne contre une réforme puisque les réformes n'est même pas proposée. Aujourd'hui, c'est un malaise qui est exprimé par les professionnels que je connais bien parce que moi-même, j'ai travaillé
sur les orthophonistes. Alors, je prends cet exemple.
C'est toutes les professions de la rééducation aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment valorisées, qui expriment un sentiment de ne pas être suffisamment valorisé à l'hôpital par rapport au nombre d'années d'études. Et donc, ça concerne les orthophonistes, les kinésithérapeutes qui, effectivement, gagnent beaucoup mieux leur vie à l'extérieur. Donc, on a du mal à en recruter au sein de l'hôpital.
Mais vous avez du mal à avoir un rendez-vous avec un orthophoniste en ville, ce qui veut dire que la situation à la fois pour les orthophonistes, si celle-ci se détériore, et pour les patients, devient quand même compliquée sur ce secteur de la rééducation.
Mais sur le secteur de la rééducation, mais c'est vrai aussi pour la médecine en général. C'est très difficile aujourd'hui de trouver un médecin traitant, un médecin généraliste. Donc là, vous abordez non pas un problème de rémunération, mais un problème de démographie des professionnels de santé. Elle n'a pas été anticipée dans les années précédentes. Et donc, on se trouve face à des professions qui sont en tension et en quantité insuffisante sur le territoire pour répondre aux besoins de la population. Donc ça aussi, nous devons le transformer.
On se retrouve aux environs de 8h20. Agnès Buzyn, vous êtes la ministre de la Santé. Il est 8h sur France Culture.